À ce café littéraire sur les dystopies. L'intitulé, c'est Des mondes inquiétants, le grand retour des dystopies. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Stéphane Beauverger, Yves Grevert, Pierre Bordage et Yvon Bidiville. Alors, pour commencer cette table ronde, on va peut-être pas se lancer dans les définitions, mais quand même, le grand retour des dystopies, qu'est-ce qu'une dystopie ? Bien, ça s'appelle aussi contre-utopie ou anti-utopie. Il s'agit de décrire des mondes pires que le nôtre, au contraire de l'utopie qui décrit des mondes meilleurs. Dans les grandes œuvres connues de tout le monde, on peut citer Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Nous autres de Zamiatine, et au cinéma, on peut faire référence à Bienvenue à Gattaca, par exemple. Alors, on va peut-être commencer par Pierre Bordage. Souvent dans vos livres, la fin est heureuse. Mais pour en arriver là, quelles épreuves n'a-t-il pas fallu traverser à l'humanité pour qu'elle puisse vivre ou retrouver le bonheur ? C'est cela le destin de l'humanité, se trouver en péril mais survivre ?
Bonjour. Faire pire que... En fait, tu as dit dystopie, c'est pire que maintenant. Et faire pire que maintenant, il faut déjà mettre beaucoup de bonne volonté pour faire pire que maintenant, parce que quand on regarde un peu l'actualité, c'est déjà le pire. Ouais. La dystopie, je pense, ça part d'un principe... Déjà, raconter une utopie, c'est extrêmement chiant. Parce que quand vous commencez le bouquin par « Ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants », ça devient compliqué de créer une suite. Je pense que la dystopie utilise un vieux principe qui est celui des mythologies finalement, qui est qu'il y a une disharmonie qui se produit quelque part, ce qui fait que des personnages vont réagir et partir en quête de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire pour essayer de rétablir l'harmonie. Donc il y a un noircissement volontaire de la situation pour qu'il y ait une vraie quête. Je pense qu'il y a aussi une notion de quête dans la dystopie pour essayer de ramener... Fin optimiste, hein. Tu as parlé des fins optimistes, c'est vrai que je suis plutôt en tendance à faire des fins optimistes dans le sens où c'est une réunification, une réharmonisation des choses, ou disons une nouvelle voie à explorer, un nouvel espoir. Et donc, on pourrait penser que les auteurs de dystopie sont des gens pessimistes, mais je pense que ce sont des optimistes finalement, qui utilisent la dystopie comme miroir et comme instrument de réflexion pour justement donner des pistes aux contemporains. Et le saut, la projection dans l'espace-temps, dans le futur, là en l'occurrence souvent, permet de grossir les problèmes. Ça fait un effet loop, cette espèce de déplacement rapide, instantané, de plusieurs années, voire plusieurs siècles sur un monde, fait un effet de loop qui permet de mieux discerner les problèmes, de mieux les présenter aux lecteurs et les amener comme pierre de réflexion pour nos contemporains. C'était ça la question ?
Oui, c'est ça. Alors, pour passer la parole à Stéphane Beauverger, Chromovore, les Noctivores et la Cité Nymphole forment un triptyque prophétique et cataclysmique dans lequel un virus électronique est devenu biologique. Pensez-vous qu'une telle mutation soit possible, Stéphane Beauverger ? Redoutez-vous cette mutation ?
Je vais être tout à fait d'accord avec Pierre. On est finalement plutôt des optimistes, en fait, donc je ne souhaite pas que ça arrive. Comme on dit parfois, un pessimiste, c'est un optimiste avec de l'expérience. Non, je pense pas que ça puisse arriver, je le souhaite pas, mais ça permet de fabriquer un tissu narratif dans lequel les personnages vont être on m'entend, je sais pas si c'est du retour quoi, les personnages vont être confrontés à des situations tellement cataclysmiques ou tellement épouvantables que le meilleur d'eux-mêmes, j'espère, va se révéler quoi.
Il y a une dame qu'on t'entend.
Vous entendez pas bien ? Là c'est mieux ?
Ah, bravo, chérie.
Recommence tout, à la virgule près.
À la virgule près, je recommence tout. Donc oui, je pense que l'intérêt des dystopies, c'est que ça permet de créer des univers tellement catastrophiques, tellement sombres, que ça va obliger les personnages à lever un très bon filtre de personnalité. En ce qui me concerne, ça permet de vérifier qui sera en salaud, c'est-à-dire, je pense, quand même 90% des êtres humains, minimum. et peut-être que cela reprendra l'appellation d'être humain, c'est une autre question. Et que les véritables êtres humains, ceux qui auraient droit à ce titre, seraient ceux qui, une fois passé le filtre, seraient les gens qui gardent la tête haute. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois.
J'ai lu récemment que Lausanne est devenue la ville la plus dangereuse de Suisse, Yvan Bidiville. Dans la troisième itération, c'est bien ce que vous nous montrez, un futur assez, enfin pour le moins brutal. Les implants électroniques et la drogue vont-ils vraiment se révéler indispensables pour survivre dans le futur ?
C'est pas la question que je me suis posée, on m'entend, non ? Non, hein ? Voilà. On m'entend mieux ? Oui. C'est pas vraiment la question que je me suis posée, les implants, savoir si ce sera nécessaire pour l'humanité. Je pense pas. C'est pas vraiment la question que je me pose. S'il y a des implants qui existent, c'est sûr que les implants en général, c'est quelque chose de très cher. L'idée dans le roman, c'est que quand on a des sous, forcément, on peut avoir un implant, on peut être à jour, on va dire. Parce qu'évidemment, s'il y a des gens qui vendent des implants, ils vont en vendre plusieurs versions au fil des ans. L'informatique, ça progresse. Ça progresse parce qu'on peut faire mieux, puis surtout que c'est en vendant d'autres produits qu'on gagne de l'argent. Donc, le problème, c'est que les gens se trouvent des fois coincés avec des vieux implants, et puis n'ont plus le moyen de faire partie de la société, n'ont plus les mêmes chances que les autres. Donc ça, c'est l'idée du roman. Mais... Donc les implants, ça fait partie du côté imaginaire, on va dire. C'est vraiment de la science-fiction. Tandis que les drogues, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui déjà, beaucoup. C'est des choses que les gens consomment dans leur travail, ça arrive très fréquemment, que les gens prennent des produits pour tenir, que ce soit des antidépresseurs ou de la cocaïne pour certains, ou je sais pas, des choses qui leur permettent... d'assurer ou d'assumer ou de garder, de sembler être à la hauteur pendant un temps. C'est ce qu'ils ont besoin. Et dans le long terme, effectivement, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Parce que les produits chimiques, quand on en consomme trop, et ben forcément, ça a un impact sur le cerveau, sur la personnalité. Donc, dans le roman... Les personnages doivent être au taquet, ils doivent être à fond tout le temps, ils sont obligés parce que sinon, on va leur dire, oui, bon, il a un vieil implant, on va le remplacer par quelqu'un qui a un nouvel implant, c'est sûr qu'il sera meilleur, il sera plus performant. Et le problème, c'est qu'on pousse les gens vers le fil du rasoir, et puis après, ça se pète la gueule, mais on remplace les gens, on engage d'autres gens. Et c'est ce qu'on retrouve dans la société d'aujourd'hui, où la durabilité n'est pas forcément la chose qui est vraiment mise en avant, mais la performance, oui, les chiffres du mois, la croissance, ce genre de choses. Donc c'est ça dont je voulais parler avec les implants, mais l'histoire des implants, pour moi, ça sert justement à une critique de la société. Ça revient à ce que disaient mes collègues. Le but, quand on fait une dystopie, c'est de mettre en valeur certains dysfonctionnements pour pouvoir en parler, pour pouvoir cerner le problème, et puis d'attirer l'attention du lecteur sur quelque chose en particulier. Ça répond à la question ?
Même la jeunesse n'est pas épargnée, Yves Grevet, puisque dans votre trilogie Métaux, vous décrivez un univers extrêmement dur qui vise à contrôler au maximum les personnes et les esprits. Il n'y a donc pas d'espoir ?
Si, il y a de l'espoir quand même, oui, parce qu'ils s'en sortent. Voilà, au pire bordage, j'aime bien. Mais ils vont souffrir, c'est sûr. Oui, oui, c'est vraiment une idée d'une sorte de pensionnat où on essaie de dresser la jeunesse, contrôler la jeunesse, qui a toujours été une sorte de fantasme aussi dans les sociétés. Et là, on en fait des sortes de robots hyper contrôlés. On les contrôle même quand ils mangent, quand ils dorment, pour tous les moments de la vie, quand ils se lavent. C'est vraiment l'idée du contrôle total sur les gestes quotidiens et donc avec aussi une sorte de bourrage de crâne. Voilà.
Alors, une question que je peux poser à qui veut répondre, c'est pourquoi les mondes futurs sont-ils souvent inquiétants et non pas joyeux ?
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est cet effet miroir dont on parlait. Et je pense que la science-fiction, l'anticipation, la projection permet justement de mieux cerner les problèmes du présent. Tu parlais tout à l'heure de Meilleur des mondes, d'Huxley. C'est quand même... Le problème de la biotechnologie est posé en 1930 à peu près, et il est d'actualité aujourd'hui. Il est encore plus brûlant d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, Huxley a perçu le potentiel de la biotechnologie, ses dérives possibles, et l'a amené à la réflexion. Et c'est maintenant qu'on voit toute la pertinence de son bouquin. Même chose pour 84 d'Orwell, même si la surveillance globale ne s'est pas passée exactement de la façon dont il l'a décrit. On est bien en permanence sous la tentation de la surveillance globale, sauf que, bon, c'est pas Big Brother, c'est plein de petits mini-Big Brother qui sont dans nos poches et dans nos bureaux, qui forment une sorte de grande chaîne de surveillance globale. Mais le problème aussi était posé en 1948, par Orwell. Et donc, c'est vraiment... Encore une fois, raconter des histoires qui se passent bien, c'est au niveau sur le plan du mécanisme romanesque, c'est assez peu intéressant finalement. Les utopies, et la plupart des auteurs qui ont essayé d'écrire des utopies ont en fait décrit des dystopies les plus affreuses et les plus terribles des dystopies, c'est-à-dire c'est le bonheur obligatoire pour tout le monde, et ça c'est un truc terrifiant quoi. Donc la dystopie, au moins, ça permet aux gens de se situer dans un univers en dysfonctionnement, mais d'avoir des réponses individuelles, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de dégager le meilleur d'eux-mêmes, parce que c'est par l'épreuve, et ça, on retrouve le cœur des récits mythologiques, c'est par l'épreuve, finalement, que des héros se dégagent et ramènent quelque chose pour leur monde. Donc je pense qu'on est dans ce schéma narratif-là. Et moi, en tant qu'auteur, je me verrais très très mal écrire une utopie parce que je ne saurais pas, parce que ça voudrait dire que moi j'ai la connaissance du bonheur et que je dis aux autres, voilà, c'est comme ça que vous devez être heureux. Ça me paraît assez difficile.
Alors, c'est intéressant cette intervention parce que, par exemple,
merci.
Yves Grevet, si je passe la parole à Yves Grevet, au fait, quelle valeur voulez-vous défendre à travers l'histoire de Métaux?
Quelle valeur je veux défendre? En fait, j'ai voulu d'abord raconter un roman d'aventure. Après, il y a des valeurs qui peuvent passer. C'est des valeurs comme la résistance, voilà. Parce qu'on met nos héros, comme on le disait, dans des situations impossibles où ils ne pensent même pas, d'ailleurs, qu'une révolte est possible, même que la solidarité existe, ou des choses comme ça, voilà. Et moi, ce livre, comment mon héros va devenir un héros, mais c'est surtout comment il va devenir un adulte, comment il va apprendre des choses de la vie, quoi, des choses qui nous paraissent évidentes à nous dans ce qu'on a vécu, mais ce que c'est que la camaraderie, de faire confiance à quelqu'un, et puis de résister, de se dire que ce qu'on nous assène comme étant une vérité absolue, comme étant c'est comme ça que tourne le monde, on peut se dire non, voilà, c'est peut-être pas comme ça que tourne le monde, et je peux tenter des choses, je vais tenter des choses et je vais me planter. Là, ils essaient vraiment... C'est un peu une utopie politique, c'est-à-dire c'est des gamins qui vont se retrouver finalement en position de pouvoir décider de leur avenir. Ils vont avoir un territoire à eux, une île à eux à un moment donné, et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et ça va mal démarrer, forcément. Et puis, c'est une construction difficile. Mais voilà, je me suis mis à la place de jeunes qui se diraient... voilà, si j'avais les pleins pouvoirs, qu'est-ce que je pourrais créer? On me laisse un endroit, on me laisse des moyens. Comment je débrouille avec ça? Et
voilà. Est-ce que vous auriez envie, vous, d'écrire une utopie?
J'ai l'impression que ça ne resterait pas une utopie. Voilà, exactement ce que disait Pierre. Voilà, ça ne resterait pas une utopie.
Et Stéphane?
Voilà.
Stéphane Beauverger, une utopie, ça vous tente?
En fait, il y a 2 ans, un camarade auteur a fait une anthologie dans laquelle il ne voulait sortir que les textes positifs, qui ne reposaient pas sur les mécaniques de l'affrontement, de la destruction. Il voulait que des textes heureux. Je confesse que ça a été le truc le plus dur que j'ai eu à écrire. Je crois même que je ne suis pas complètement arrivé. j'ai mis de côté la violence, mais j'ai pas pu empêcher de faire un meurtre. Hein. Pierre Toller disait c'est le bonheur c'est chiant, mais en fait non, c'est pas chiant. Enfin, je crois pas que ce soit chiant, ça va être fabuleux, mais je suis pas certain qu'on soit
à écrire.
C'est vrai que toutes les histoires qui commenceraient par une vécu heureuse, ils eurent beaucoup d'enfants, on imagine que la suite aussitôt ça va mal se passer. Enfin, ils vont divorcer, les gamins sont cons, il y a une tempête, je sais pas, mais forcément, pour que dans un tissu narratif, normalement, surtout dans, enfin on parlait du tissu narratif des mythes, il faut qu'il y ait un obstacle, enfin le héros se construit vis-à-vis des épreuves qu'il va traverser. Scénaristiquement, enfin, mon métier de scénariste, écrire un scénario, c'est poser un personnage, le confronter à une situation, quelle qu'elle soit. Et il faut que cette situation, la manière dont il va la résoudre, le change. S'il est le même personnage du début à la fin, normalement, c'est, on a raté quelque chose. Si on n'a pas, ou alors on voulait démontrer que le personnage était imperméable à tout. Là, ce sera un effet de style ou un effet littéraire. Donc il faut des obstacles. Et comme on a, je crois, tous tendance à regarder notre monde actuellement, qui est loin d'être joyeux. On parlait de drogue tout à l'heure, je crois que c'est la France, un des champions du monde en termes d'antidépresseurs. Super, ouais, normalement ça. Les statistiques récentes qui disaient que pas très chouette à vivre, donc ça nous donne sans doute plus envie d'imaginer ce genre d'univers. Très peu plaisible et très peu agréable à vivre, donc très chouette à raconter.
Est-ce que la science-fiction a ainsi un rôle d'avertisseur ou est-ce que c'est plutôt, comment dire, des romans initiatiques, surmonter l'épreuve, c'est ça l'idée?
Je pense qu'elle elle a les deux, pour moi, enfin, et là on n'est pas obligé d'être d'accord, et tant mieux. Je pense que la science-fiction s'inscrit dans le courant mythologique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, n'envoyez pas tout de suite les tomates, s'il vous plaît, Pierre. Attendez-moi la sortie, si vous voulez. Parce que ça fait partie du grand corps des romans initiatiques, à mon avis. Et de toute façon, chaque auteur est un immense orgueilleux qui pense que son œuvre va changer quelque chose dans la perspective de son lecteur. D'ailleurs, si je n'avais pas cette arrière-idée en tête, c'est-à-dire si mon roman était complètement gratuit et ne changeait pas quelque chose, un tout petit quelque chose, hein, simplement déplacement du point de vue dans la tête du lecteur, je crois que je n'écrirais pas. Et c'est en ça que je suis optimiste. Parce que je pense que, effectivement, je vais peut-être pouvoir apporter quelque chose au lecteur. Encore une fois, en toute modestie, c'est-à-dire l'aider à simplement déplacer le point de vue et de dire si je me place dans cette position-là, est-ce que je vois le monde de la même façon? Avertissement, oui, et particulièrement la dystopie, qui est vraiment la littérature même d'avertissement, c'est-à-dire tel problème risque de se poser avec tel développement des sciences. La biotechnologie, encore une fois, pour moi, est la science d'avenir, et on est à la veille d'un grand bouleversement, et donc qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, ce sont les militaires qui développent le premier des inventions, donc déjà, on a une petite idée de ce qui peut nous attendre. Donc, avertissement, et puis initiatique, dans la mesure où les héros, confrontés à ce problème exagéré, amplifié, vont effectivement évoluer. Et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, un héros doit avoir changé à la fin de l'aventure, de la même façon que le lecteur, je pense, doit avoir changé quelque chose. Sinon, je pense que le livre est quelque part raté, quoi. Si on n'a pas changé un tout petit truc dans la tête du lecteur, c'est que je pense que on a manqué quelque chose.
Le héros donc va changer au cours de l'histoire. C'est vrai que votre héros il change pas simplement, il faut midi-mille entre le début du récit et la fin du récit. Mais
j'ai pas tellement l'impression en fait.
Si,
ouais, je sais pas, c'est un personnage qui est assez torturé par l'histoire. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qui lui arrivent qui sont pas joyeuses, mais du début à la fin, il essaye de faire face. Alors c'est sûr, il prend des produits parce que la société le met dans la situation où il n'a pas le choix, donc il pense qu'il n'a pas le choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il abandonne son humanité. Il reste humain, il va se battre, puis c'est... Ça va être vraiment le berceau de l'espoir tout au long du roman. On se dit, il se bat, il essaye. Et puis, il fait de son mieux. Et puis, c'est pas facile. C'est sûr que ça, c'est un roman typique, où j'ai suivi une trame relativement logique. Effectivement, il y a des épreuves, le personnage les traverse, et il va chercher la vérité, il va est-ce qu'il va changer? Ouais, j'arrive pas à dire, c'est un peu difficile, mais disons que j'ai dans l'idée qu'il est possible aussi de faire autrement. Enfin, on a parlé d'utopie, est-ce que ce serait vraiment intéressant? C'est vrai qu'à écrire, c'est pas forcément très comme ça engageant, mais en même temps, si je veux faire un roman, on pourrait imaginer un roman de voyage dans un monde imaginaire, dans le futur, c'est possible, mais pourquoi le placer dans le futur? Pourquoi le placer dans une autre planète? Parce que le lecteur ne va pas réussir à comprendre ce qui arrive si c'est juste un roman que quelqu'un qui découvre un monde et puis qui fait des rencontres et puis qui vit. Il va falloir qu'il y ait des épreuves pour qu'il y ait des sentiments auxquels le lecteur puisse se rapprocher. C'est aussi pour ça que j'avais dans l'idée de mettre des thèmes actuels dans mon roman, qui est devenu une dystopie à cause de ça, parce que j'ai envie que le lecteur se sente intéressé par l'histoire, qu'il ait quelque chose à voir avec.
Ce qui est intéressant, c'est que vous créez des avertissements, des dystopies par le biais du récit. On pourrait le faire par le biais de la futurologie aussi, en disant scientifiquement telle chose peut être dangereuse ou voilà ce qui va nous arriver. Pourquoi est-ce que ça passe mieux par le biais du récit? Quelqu'un a une idée? Pourquoi vous écrivez des dystopies finalement?
En fait, à mon avis, la technologie ou l'invention, le problème n'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait. Peut-être qu'on a après nous tendance à imaginer le pire. La roue sert à transporter un chariot et sert aussi à pousser un canon. Donc, je crois me souvenir que Einstein, quand il a posé ses théories sur la fission nucléaire, il avait vu qu'on pouvait en faire. Il avait perçu immédiatement que c'était pas seulement une source d'énergie formidable, mais que ça pouvait aussi faire une bombe. Donc, à partir du moment où l'invention est sortie du chapeau, elle n'y retournera plus. Donc, voilà, il va falloir apprendre à faire avec. Je suis pas. Enfin, il y a des gens, Jean-Michel Truon, qui est là cette année, il est balisticien. J'étais très content de discuter de ça avec lui il y a 2-3 ans. Et son boulot consiste justement à réfléchir sur les possibilités d'évolution de la société au regard des champs sociaux, de la technologie, etc. Moi, je suis pas dans ce domaine, j'ai pas les compétences nécessaires. Par contre, ça m'intéresse de raconter des histoires qui parlent de notre monde et qui essaient de trouver des réponses, parce que je n'aurais pas cette prétention, mais de coucher sur papier les questions que je me pose. La fiction permet d'explorer ça avec la petite partie de liberté qui me dégage des obligations de maîtrise de la science, justement.
Oui, moi, en tout cas, je suis avant tout là pour raconter une histoire, faire vivre des émotions à mes lecteurs. Et après, je me sers de sujets qui me tourmentent ou qui vont d'ailleurs parfois s'imposer dans le récit, alors qu'au départ, on ne sait pas très bien... On ne sait même pas décider au départ. Moi, j'ai écrit une dystopie au départ absolument sans le savoir. C'est-à-dire, j'avais une petite idée en tête, une sorte de scène de départ un peu traumatique, et puis après, je ne savais pas comment la faire évoluer, et puis ça m'a emmené vers une dystopie. Et puis comme mon récit se déployait bien, et que je m'y trouvais bien, et que je voyais plein de perspectives à mon histoire, voilà, j'ai développé ça. Et d'ailleurs, j'ai appris... que je faisais de la dystopie, je connaissais pas le mot quand j'ai écrit ça. Par exemple, on va parler d'Uchronie aussi. J'avoue que je suis vraiment nul parce que quand on m'a dit vous avez écrit Uchronie, j'ai dit oui parce que je pensais qu'il fallait répondre oui pour pas avoir l'air d'un con. Et puis après, j'ai demandé à mes fils que c'était l'Uchronie, ils n'en savaient rien d'ailleurs, ils ont regardé sur Google et puis ils m'ont dit, et j'avais répondu bon, donc j'étais content. Mais c'est pour dire que voilà, quand on écrit des trucs, on se laisse emporter. Voilà, j'ai besoin de réécrire l'histoire parce que j'avais besoin de ça pour mon contexte dans mon histoire. Mais c'était pas du tout, c'est pas un plan de départ, quoi. Voilà, on n'est pas là, enfin, ouais, je me sens pas du tout futurologue ou autre chose comme ça, enfin, du tout, quoi. J'ai envie de raconter des trucs et puis je me sers de ce matériau-là.
Ah, je t'en fais. Juste rajouter quelque chose vite fait. Effectivement, je ne pense pas, enfin, il ne me semble pas qu'on se complaise dans la satisfaction morbide à inventer des mondes torturés.
Certains. C'est les antidépresseurs.
En plus, on prend tous antidépresseurs comme on baigne dans le bonheur. Le mot dystopie et la qualification de notre travail viendra ensuite par les lecteurs et par les publics et les critiques.
Répondre à ta question, ça revient à répondre à la question des gens qui passent devant les rayons, souvent dans un écart, parce que ça fait peur un peu ces livres, en disant mais pourquoi vous écrivez des choses pareilles, de la science-fiction, et pourquoi vous ne vous contentez pas du réel et tout ça. Et voilà, alors la science-fiction elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages. Après, on pourrait réfléchir sur la fantasy, parce que c'est un petit peu autre chose encore, mais là on est en science-fiction, enfin en dystopie, c'est plutôt science-fiction, c'est qu'elle offre une palette. Que très peu de littérature offre, qui sont premièrement le merveilleux. Et évidemment, la notion principale lorsque l'on raconte une fiction, une histoire, c'est le merveilleux, c'est-à-dire c'est happer le lecteur, l'attirer dans une histoire où il va découvrir des choses, il va voyager, enfin, il va avoir cette espèce de vertige qui fait qu'il va se sentir bien dans l'histoire. Le deuxième point, c'est la réflexion, du coup, parce que justement, ça permet la réflexion, cet effet loupe, ce grossissement de la projection dans l'espace-temps, permet une meilleure étude des courants qui traversent le présent. Et puis il y a un troisième intérêt qui sous-tend les deux autres, qui est l'interrogation philosophique. Il y a toujours des interrogations philosophiques sur le devenir, sur l'évolution de l'homme, sur ce que c'est l'homme, sur ce qu'est l'homme. Donc cette combinaison des trois facteurs est unique quasiment dans la littérature. Vous avez beau chercher dans les autres formes de littérature, vous n'avez pas trouvé toute cette association de... Mais le premier point et celui qui conditionne les autres, c'est le merveilleux, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire, le fait d'être dans la fiction et dans la fiction. Parce que dans la futurologie, ce qui est intéressant avec la futurologie, c'est qu'elle se plante une fois sur deux. Donc nous aussi, on peut dire qu'on se plante une fois sur deux.
Et heureusement.
Parce qu'il y a toujours des évolutions imprévues. Par exemple, ce qui est assez hallucinant de noter, c'est qu'aucun auteur de science-fiction n'a prédit l'avènement de la micro-informatique. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Bon. Donc, personne, ni les futurologues, ni les autres devins, n'ont une vision exacte de l'avenir, parce qu'ils prennent des détours d'un. Une nouvelle religion arrive, une guerre éclate, et ça change complètement les données. Donc, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Le récit lui permet d'accéder à un autre niveau qui est celui de l'inconscient. Enfin, moi je travaille beaucoup par l'inconscient, c'est ce que tu disais un peu. C'est-à-dire que tu pars avec une scène de départ et puis après tu as une sorte de fil d'Ariane qui se déroule dans le labyrinthe. Et je pense que c'est une grande plongée dans le fleuve humain finalement, qu'un auteur représente et qui ramène des sortes de choses du fond du fleuve humain pour les ramener à la surface et les présenter à ses lecteurs. Voilà. Et c'est pas forcément des choses qui vont se passer, mais c'est des préoccupations qui sont dans l'air du temps. Et c'est pour ça que le biais de la fiction, bah, y a plus parfois de vérité dans un merveilleux mensonge et beaucoup de mensonges dans des pseudo-vérités.
Pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'on écrit l'histoire à la place de prédire, de faire des prédictions techniques, disons,
scientifiques.
dans l'idée, à la base, le but c'est de raconter une histoire. Ensuite, s'ajoute l'idée de parler du futur, et puis quand on essaie de faire les choses, moi j'ai dans l'idée quand même de faire un roman réaliste, et on se pose des questions de comment ça va être. Et puis suivant le type de roman, si on essaie d'être réaliste, on va quand même se rendre compte que les choses sont pas si simples et que ça va être compliqué de faire quelque chose de qui semble avoir du sens, qui prenne en compte le présent, qui parle au lecteur, qui ne semble pas complètement absurde. Enfin, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais je ne sais pas si on fait un roman, si on faisait lire un roman actuel à quelqu'un du 16e siècle, il serait là, je ne comprends rien de ce qui se passe. Donc si on fait une prédiction exacte de 2100, puis qu'on fait lire à quelqu'un d'aujourd'hui, il va dire je ne comprends rien de ce qui se passe, ça ne va pas l'intéresser. Donc ce n'est pas non plus le but. Et puis on se rend compte aussi que c'est drôlement compliqué de faire quelque chose de... c'est comme le monde dans lequel on vit, être interconnecté, c'est très compliqué sans partir dans des échafauds hyper complexes pour pouvoir expliquer au lecteur ce qui se passe dans le futur. Donc on fait juste un petit bout, on pose deux trois choses, il faut que ça parle au lecteur, il faut que ça semble réaliste, mais donc on construit quelque chose de fictif malgré tout. Et puis on se rend compte que bah, faire des prédictions un peu plus vraiment à propos et plus justes, ça va être impossible. On n'est pas qualifié non plus, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas tout étudier, on ne peut pas se rendre compte des mouvements sociétaux et tout le reste. Donc on fait des histoires et puis on essaie de les faire, enfin, moi j'essaie de les faire de façon plus réaliste, histoire de... mais en même temps en ayant conscience que par être vraiment, vraiment réaliste.
Parce que, moi, je crois que Pierre Bordage a dit quelque chose d'essentiel. En fait, c'est l'humain qui est au centre, c'est pas la technologie, finalement.
Aux dernières nouvelles, je suis un humain. je m'adresse à des humains et j'utilise des outils humains pour m'adresser à des humains. Donc, effectivement, on ne parle que d'humains. Enfin, si on faisait des bouquins qui ne parlaient que de races extraterrestres avec une logique extraterrestre, je ne pense pas que ça intéresse grand monde finalement. Que de robotique avec une logique purement robotique, je ne pense pas que ça intéresse grand monde non plus. Ce qui est intéressant, c'est les réactions par rapport à l'humanité, mettre l'humanité dans tous ses états pour que justement le lecteur puisse se sentir intégré dans la réflexion, parce que c'est à lui qu'on parle. Et qu'on parle, qu'on soit dans le présent, dans le futur ou dans le passé, ce sont toujours aux humains. Ce sont toujours des histoires humaines qui s'adressent aux humains. Le tissu émotionnel est très important, les sensations, les réactions face à tel type de situation, des situations extrêmes par exemple, souvent dans l'espace. C'est intéressant par exemple dans les voyages spatiaux, c'est le confinement et la découverte de mondes complètement inconnus et la réaction par rapport à tout ça, les peurs, etc. Mais oui, il n'y a que l'humain qui soit intéressant, enfin, à mon avis.
Yves Grevet, vous êtes d'accord ?
Ben oui, absolument, oui, c'est parfait. Je ne vois rien à rajouter d'ailleurs.
D'accord. Et Stéphane aussi.
Oui, bien sûr. Ce qui fait, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, qu'un texte peut être intéressant, un texte d'il y a 5 siècles ou 10 siècles, ou un texte du futur, encore apparaître, ce qui touchera, je pense, le lecteur, quelle que soit l'époque, c'est le fait qu'il parle de choses qui concernent l'humain, ses sentiments, ses inquiétudes. Je cite toujours Shakespeare. J'adore ce genre de questions parce que ce qui me frappe chez cet auteur, c'est qu'il pose des questions qui sont liées à la nature humaine, la jalousie, le désir, la colère, la rage. Et ça, c'est nous. Il n'y a pas d'époque pour parler de ça. Après, quel que soit l'habillage technologique qu'on va dresser autour de ce personnage, ce qui est central, c'est la nature même des dystopies. En fait, c'est définir un personnage ou des personnages, et puis ensuite, parce que ce sont des êtres humains, voir comment ils vont se débattre là-dedans et comment ils vont réagir. Quoi. Les dystopies ont souvent tendance à essayer de briser l'humain, de le soumettre. Et donc, la manière dont l'individu se débat et essaye de se maintenir à flou, ou au contraire de se faire complètement s'aborder et détruire par ce qui l'entoure, qui est le sujet principal et le plus intéressant sur ce genre de travail.
Il y a la notion de résistance, vous l'avez dit tout à l'heure, et de liberté individuelle qui est très importante dans ce genre de récit.
Ou collective, enfin la résistance est peut-être collective aussi. Actuellement, on est dans une époque, dans une société individualiste qui prône l'individu. C'est presque devenu bizarre voir ça, d'être un agent du collectif. Donc, évidemment, on va avoir tendance à s'intéresser à des combats personnels. Et puis le combat personnel permet aussi de ciseler une psychologie et de montrer un individu. Tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui parlait de la manière dont le contrôle global est en train de se mettre en place. juste là-dessus, ce qui me frappait en plus, c'est que non seulement le contrôle de l'open est de plus en plus en place, mais en plus il est participatif, c'est-à-dire qu'on participe à Facebook. Donc j'appelle ça les dictatures participatives. Ouais. Donc oui, ce sont des phénomènes et des événements auxquels on est confronté, qu'on observe. Et je ne sais pas si Facebook c'est le mal, mais en tout cas ça pose des questions. Ouais. C'est le genre de choses dont j'en ai parlé. Ouais.
Est-ce que dans le public, vous auriez une question à poser aux auteurs ici présents sur leur œuvre, sur leur... A priori pas. Très bien.
C'est ici.
Oui, j'ai pas vu, pardon. Merci Yvan.
Il y a toujours.
Il y a plein de micros qui se baladent.
Les auteurs sont participatifs.
Ouais.
En fait, en vous écoutant, je pensais au fait que chaque époque a son langage, ses mots, son vocabulaire, sa langue. Et je me demandais, est-ce que vous êtes confronté à cette problématique de comment écrire une histoire du futur avec les mots d'aujourd'hui? Et comment vous sortez de cette affaire?
Mal.
C'est une des préoccupations essentielles effectivement d'un auteur, c'est-à-dire d'être compréhensible par tout le monde et à toutes les époques finalement. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est vrai que si on prend des textes du XIIIe siècle non traduits, on va avoir un petit peu de mal à les piger. Donc l'invention de vocabulaire, ce genre de choses, on est obligé de parler la langue d'aujourd'hui pour que les lecteurs d'aujourd'hui puissent comprendre nos textes. Mais pour donner un effet science-fiction, on est bien obligé, ou futuriste, on est bien obligé d'inventer des mots, des concepts nouveaux. Et là, il y a une vraie réflexion à poser, parce que c'est fascinant de regarder un dictionnaire, dans la mesure où chaque mot du dictionnaire reconstitue l'histoire globale d'un pays. C'est-à-dire que la langue, avec ses évolutions, quand on regarde la définition de chaque mot, sa date d'entrée dans la langue, son origine et tout, on peut dessiner quasiment une fresque historique d'un pays comme la France, par exemple. Et ce que j'essaie de faire quand je suis confronté au problème de créer un mot, c'est de créer des étymologies fictives. Je déteste vraiment recourir au lexique, qui pour moi est une solution de facilité. Donc je ne fais pas de lexique, en essayant d'avoir le pari que le mot inventé, le mot nouveau, va être compréhensible par le lecteur dans le corps du texte. Ce qui veut dire qu'il faut essayer d'imaginer comment le lecteur va le recevoir et donc lui créer une étymologie fictive, une petite histoire de l'apparition de ce mot dans la langue. Ça ne doit pas être un truc gratuit parce que je me souviens très bien quand j'ai publié mon premier roman, Les Guerres du Silence, Pierre Michaud, l'éditeur de la Talente, m'a dit « Veillez à éviter le langage schtroumpf ». Et en fait, c'est vrai parce que quand on schtroumpf le schtroumpf, plus personne schtroumpf que schtroumpf, quoi. Et à un moment, l'espèce de plaisir d'inventer des mots comme ça devient contre-productif. Donc il faut faire ça avec beaucoup, beaucoup de précautions, et c'est vraiment un objet de réflexion permanent pour l'auteur que je suis. Telle période, ça se passe dans 3 siècles, ça se passe dans 10 siècles, il va y avoir une évolution, et il faut essayer de... tout en étant compréhensible par le lecteur. Je l'ai fait aussi dans le passé, parce que dans le cycle de l'enjeu mineur, j'ai fait parler mes personnages en patois vendéen, ce qui est aussi une autre forme de pari. Est-ce que le lecteur va être capable de comprendre le patois vendéen? Moi, je comprends mal, alors. L'ayant parlé pourtant jusqu'à 10 ans. Et donc, voilà, tout le jeu de la transcription, insérer le mot dans un contexte qui fasse qu'il soit compréhensible tout de suite, sans être obligé de recourir à un lexique, même s'il ralentit un peu la lecture. Voilà, c'est tout un... C'est fascinant et c'est passionnant en même temps. J'adore ça, créer des mots, parce que ça, c'est vraiment... Ça fait partie du jeu, quoi. C'est vraiment un jeu passionnant.
Oui, dans un de mes bouquins, en fait, j'ai pour que le lecteur arrive à se repérer, en même temps qu'à créer une forme d'étrangeté, j'ai supprimé une voyelle dans certains mots, en particulier dans les prénoms des gens et dans certains mots de la vie courante. Dans l'histoire que je racontais, c'est parce que c'était une population qui était considérée comme déclassée, donc elle n'avait pas vraiment un statut d'humain complet, donc quelque part on leur enlevait un petit quelque chose. Donc c'était aussi avec l'idée de justifier ça, c'est-à-dire comme créer une histoire de ces mots-là. Et ça crée une étrangeté tout de suite parce que les prénoms sont différents, on les connaît ces prénoms, et en même temps on sent qu'ils sont trafiqués, on ne voit pas très bien pourquoi au départ, et puis on va s'apercevoir que les mots de la vie quotidienne sont aussi un peu trafiqués comme ça.
les produits qu'ils mangent ne sont pas vraiment les produits tels qu'ils existent. Donc, on les a modifiés. Et ça, ça s'impose dans le récit, en fait. Et puis ça. Mais il faut que ça ait une vraie raison, quoi, une vraie signification, et aussi de ne pas perdre son lecteur. Voilà. Mais il ne faut pas s'en priver quand on peut le faire.
C'était une question, on a tous envie de dire quelque chose là-dessus. Une des particularités, je crois, de la science-fiction, c'est aussi qu'on définit des univers et qu'on pose des paradigmes sociaux, paradigmes technologiques, et donc il faut les expliquer au lecteur, il faut le prendre par la main, et si on lui balance ce monde-là dans la tronche, sans lui expliquer les tenants aboutissants, il risque de décrocher assez vite. Ou alors on peut avoir envie de provoquer cet effet de choc pour une raison littéraire ou narrative, scénaristique. Mais donc il faut essayer de lui expliquer ça. Et une des meilleures raisons, une des meilleures solutions, c'est de passer par la sémantique. C'est d'inventer des termes pour montrer que, par exemple, telle technologie ou tel comportement est devenu tellement commun qu'un mot est apparu pour le décrire. Dans mon premier roman, pour faire comprendre que certains endroits étaient privilégiés et les gens continuaient à vivre comme avant, j'avais inventé le mot de conforteresse. Voilà. Donc c'était juste utiliser deux termes que tout le monde connaît et en les collant, je pense que ça marche. Un mot valise, on comprenait tout de suite ce que ça signifiait. Les gens qui vivaient dans une conforteresse étaient à la fois protégés et vivaient bien. Et ça, c'est très vrai, il faut bien les choisir, il ne faut pas que ça fasse le schtroumpf-schtroumpf. Il ne faut pas en mettre de trop. Et dans mon dernier bouquin, j'ai fait exactement le contraire. J'ai fait parler un personnage pirate, un patois tel que personne ne peut comprendre ce qu'il dit. Et je suis obligé, en fait, de faire de la périphrase par un autre personnage pour avoir une idée de ce que dit ce type, qui jargonne des propos de boucanier qui n'ont absolument ni queue ni tête. Mais ça, c'est pour faire un petit effet, pour faire comprendre que le type est resté trop longtemps la tête sous le sol. La problématique principale, pour répondre à votre question, c'est définir, sans faire petit lexique à lire en fin d'ouvrage, le léger décrochement sémantique qui fait comprendre qu'on est passé dans un univers où des choses se sont passées. Et le vocabulaire qui évolue montre que des choses se sont passées.
Oui, juste pour finir sur la question, j'avais été confronté au problème dans les Fables de l'Impur où je fais parler un langage dégénéré. Alors comment faire un langage dégénéré qui soit en même temps compréhensible ou qui montre une certaine dégénérescence mais qui reste compréhensible alors en utilisant plusieurs artifices, c'est-à-dire des mots de patois, périgourdin, vendéen, et des inventions grammaticales comme l'inversion du pronom personnel puisque la notion d'individualité s'efface au profit de la notion d'instinct. Et que donc tout le monde fait la même chose en même temps. Donc le pronom personnel a tendance à ne plus avoir d'importance. Et donc il passe à la fin du verbe. Il ne devient que du verbe avant probablement de disparaître dans un futur plus lointain. Donc au lieu de dire je mange, il dit je mangeais-je. Et là, il y a aussi une vraie justification, je pense, au mot. Et même si ça ralentit un peu la lecture parce qu'il faut s'habituer à ce vocabulaire-là, je pense que. Comme il y a une justification, que donc le lecteur le prend finalement et l'accepte et il va jusqu'au bout avec.
Merci. La question était répondue ?
Ah oui. C'est large. Mais ça ne parle pas de dystopie ou d'utopie, mais c'est intéressant. Je passe le micro.
Personne. Je vais aller chercher. Ouais, sympa. Merci. Alors, moi, j'ai encore une question à poser à nos auteurs ici présents. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez aussi des projets pour des dystopies pour vos prochains livres ou vous travaillez sur d'autres domaines ? Enfin, ouais, on commence par Yvon.
Volontiers. Oui, exactement, en fait. Je travaille maintenant sur une dystopie, puisqu'il faut utiliser ce terme. Mais l'idée, c'est que les gens se connectent à un monde virtuel pour vivre leur loisir, un peu comme les gens se connectent sur Facebook maintenant. Les gens qui utilisent Facebook pour travailler, pour faire de la communication, c'est imaginer que les gens vont se connecter dans un monde virtuel parce que c'est plus facile d'atteindre le luxe quand il n'est pas réel, c'est plus facile de travailler sur un ordinateur quand on n'a pas besoin de le faire construire, quand on n'a pas besoin de se déplacer pour aller au travail, qu'il suffit de rester chez soi, de se connecter et puis de rester dans le monde virtuel pour faire des choses qu'on fait aujourd'hui, mais dans le réel. Donc c'est l'idée, c'est cette idée. Et puis après, explorer comment ça fonctionne, le fait que les gens s'abonnent à un sandwich à la merguez parce qu'ils ont pensé qu'ils auraient envie d'en manger deux par jour, et puis alors ils ont un abonnement, et puis ça leur coûte très cher, puis ils n'arrivent plus à gérer, ils ne savent plus. Ils ne peuvent pas le passer à leurs voisins parce que l'abonnement ne prévoit pas ça. Et puis ils peuvent payer un supplément pour pouvoir faire ce genre de choses, puis voir en fait transformer ce qui aurait pu être un temple de la liberté en un temple de la consommation. C'est ça l'idée. Enfin, c'est ça le départ. Et puis il y a justement des gens qui ont envie de retrouver l'utopie. Donc ça va être difficile. Je vais essayer de définir une utopie. Ça va être très, très, très casse-gueule. Enfin, si jamais ça marche, vous serez peut-être au courant.
Merci, Yvan.
Alors, mes projets, là, il y a une pure dystopie. Wow. Que je fais paraître en feuilleton numérique, avec 36 épisodes. Qui va raconter une histoire dans le futur avec des cités unifiées, retirées sur elles-mêmes, et un pays hors cité, hors site, avec des meurtres en série, avec des meurtriers très habiles qui ne laissent aucune trace, et on va suivre des enquêteurs qui ont évidemment une puce à l'intérieur du cerveau qui augmente leur capacité analytique. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, je fais paraître aussi un Planète Opéra, la Talente, où là, les héros, là c'est plus dans la veine mythologique pour moi, enfin, souvent les aventures spatiales sont plus dans la veine mythologique, où la planète est géante, immense, et les déplacements posent énormément de problèmes, et on va suivre un personnage qui est à la recherche de géants de plus de 10 mètres de haut qui auraient existé dans le temps et qui est certainement un secret sur cette planète, et donc ça va être la découverte de ce secret, et d'une façon de voyager très très différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Ça s'appelle Gigante. Ah oui, deuxième, pardon. Je travaille aussi en collaboration avec un auteur qui s'appelle Alain Grousset, qui fera la partie jeunesse du roman. Moi, je fais la partie adulte. Lui s'occupera du père et moi, je m'occupe du fils. Voilà, les deux histoires sont interconnectées, mais on a chacun notre histoire et on a un univers partagé, en fait.
C'est cool.
Oui, moi, j'alterne un peu. Je fais pas des dystopies à chaque fois, en fait.
C'est bien.
Non, oui. Non, parce que se plonger dans une dystopie, en fait, c'est vraiment, enfin, moi, dans ma tête, c'est toujours de s'immerger comme dans un monde totalement artificiel où il faut tout créer, quoi. Il faut tout imaginer, et ça prend du temps, à mûrir surtout, voilà. Et donc, j'ai une dystopie en tête, mais pour dans 2 ans, à peu près. Donc, je commence déjà à travailler dessus, à prendre des notes, quelque chose qui aurait sujet, ce serait qu'on aurait fait disparaître les genres, c'est-à-dire il n'y aurait plus de genre sexuel, on va dire. Un truc un peu comme ça. Ça, c'est l'idée générale. J'ai déjà pas mal avancé dessus, mais dans un prochain temps, là actuellement, je travaille sur un roman plutôt historique qui se passe à la fin du 19e et qui est un peu sur le contexte, c'est les théories scientifiques de l'époque qui disaient qu'on pouvait reconnaître les criminels en regardant leur tête. Et c'est un roman pour ados. Voilà, ça, c'est là-dessus que je travaille. J'alterne, je fais des petit roman policier, un petit machin comme ça. Voilà.
Alors, je suis carrément dans l'actu. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Alain Damasio sur un projet de jeu vidéo qui est d'une pure dystopie, qui sort dans quelques jours, qui s'appelle Remember Me, et qui est un univers de science-fiction proche, qui se passe en 2084. Dans lequel la mémoire humaine a été digitalisée, chaque individu a sa mémoire numérisée en soi, et donc on peut échanger, vendre, stocker, effacer toute partie de son existence, ses souvenirs, et évidemment à partir du moment où il y a une nouvelle matière de ce genre, il y a des criminels qui viennent s'en servir. C'est un jeu vidéo dans lequel le personnage principal est une hackeuse mémorielle qui est capable de rentrer dans la tête des gens pour modifier, effacer, copier les souvenirs. Donc c'est le personnage typique du hacker informatique, sauf qu'on l'a placé au niveau du biologique et du ressenti du monde. Donc ça, c'est une pure dystopie. Et donc ça, c'est fini, ça sort dans quelques jours. toujours. Et mon prochain roman, je travaille dessus, il sortira l'année prochaine normalement. Je ne sais pas si c'est une dystopie ou une utopie, c'est un monde dans lequel la pornographie est devenue monnaie courante.
C'est un truc de cul, quoi.
C'est un truc de cul. en fait, c'est pas très loin de ce que. La moitié des requêtes sur Internet concernent la pornographie, donc on est en train de. C'est en train de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, un objet de consommation de masse. Pour des questions de détachement moral. Enfin, il y a vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se passent sur cette question en ce moment. En relation principalement avec le féminisme, qui est une autre valeur très importante de notre époque. Le féminisme s'est battu très longtemps contre la pornographie. Et là, en ce moment, il y a une scission forte qui se fait au sein du tissu féministe entre les pros et les contre. Est-ce un sujet de. C'est un outil de libération, un sujet de l'assainissement commun. C'est là-dessus que j'ai envie de travailler. C'est un univers futuriste dans lequel il n'y aurait plus de questions morales, tout le monde consommerait de la pornographie et que ça risque de générer comme de vision économique.
Eh bien, des choses à lire et à voir en perspective. Moi, je remercie nos auteurs de s'être livrés au jeu des questions-réponses. Et je remercie le public d'être venu nombreux assister à cette conférence. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les auteurs sous la bulle du livre pour des dédicaces et pour poursuivre la discussion si vous le voulez. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à toi.
Je vais peut-être éteindre le micro, c'est pas déjà. Voilà.
Merci.
Merci.